C'est le cas de Déborah qui témoigne sur notre antenne aujourd'hui. Cela fait 4 ans qu'elle est sortie du calvaire avec son fiancé, une relation de plusieurs années où le conflit ordinaire s'est rapidement transformé en enfer. Nous en parlons avec elle dans un instant sur Radio J.
Radio J. Vous écoutez Radio J.
Aujourd'hui avec nous sur Radio J, le témoignage de Déborah au plus près de la réalité. Nous avons voulu connaître le parcours d'une femme qui a connu des violences conjugales et qui a pu s'en sortir et surtout savoir comment. Merci d'avoir accepté notre invitation, Déborah.
Merci de m'écouter.
Alors, nous parler aujourd'hui sur Radio J fait sans doute aussi partie du chemin.
Oui, ça fait partie d'un pardon envers moi-même.
Alors, on va découvrir votre histoire, mais d'abord, nous avons voulu vous protéger et modifier un peu votre voix afin d'éviter que l'on vous reconnaisse. Est-ce que vous avez encore peur ?
La peur n'est plus présente au jour le jour, mais elle est présente quand je suis dans des situations où je sais que je peux le retrouver. Il y a des jours où je me pose toujours des questions si je ne suis pas suivie par lui. Peu importe que ce soit d'une manière directe ou indirecte.
Alors, vous êtes restée 4 ans en couple. Comment les violences ont commencé ?
Alors, ça a commencé vraiment crescendo. Ça a commencé par des humiliations, seules, après en public, mais avec des personnes que lui ne connaissait pas. Très rapidement, c'était des insultes. J'avais des crises de sanglots à la manière dont il me parlait, sur mon physique et sur ma dégradation. Ensuite, c'était des moments où il me touchait physiquement, mais en même temps indirectement, comme il me bloquait le passage, ou il pouvait me prendre la main de force, ou me prendre un objet que j'avais dans les mains de force, comme un paquet de cigarettes, un téléphone. Ensuite, ça a continué par des étranglements, puis ça a continué avec les mains.
Alors, ce que j'entends, c'est que dès le départ, finalement, vous sentez quand même qu'il vous humilie, qu'il y a certaines petites phases qui laissent pressentir un caractère violent. Est-ce que vous pensez que vous alliez en arriver là, à ce moment-là, ou vous ne vous en êtes juste pas rendu compte ?
Alors, je sentais qu'il y avait quelque chose chez cet homme. Il y avait une possessivité extrême, une jalousie, une emprise, un regard qu'il avait. Il y avait des signes qui me disaient « n'y va pas, fuis ». Mais j'étais déjà aspirée par cette personne-là. Comme un chewing-gum, on a déjà mis les pieds dedans, on a du mal à s'en sortir.
Donc, dès le départ, finalement, ces violences étaient bien présentes.
Oui, elles étaient présentes, mais en même temps, moi, je ne savais pas que c'était considéré comme des violences. Je ne savais pas que le fait qu'on puisse m'insulter, c'était une violence. Je me disais que c'était son caractère, c'était quelqu'un de colérique. Je savais que c'était pas bien de se comporter, de parler comme ça à une personne. Mais je ne considérais pas ça comme de la violence. Comme quand il me prenait par le bras de force ou qu'il me bloquait le passage. Mais encore une fois, je savais que c'était grave ce qu'il faisait, mais je n'arrivais pas à considérer ça comme de la violence. Dans notre tête, quand le mot violence apparaît, dans sa tête, on s'imagine automatiquement que c'est vraiment physique, qu'on a des traces sur notre corps. Alors, c'était tout et son contraire à la fois.
Et au bout de combien de temps vous avez considéré que ce conflit ordinaire était devenu vraiment une violence conjugale, d'une part physiquement, mais aussi moralement ?
Assez rapidement. Au bout vraiment de quelques mois, je commençais déjà à me poser des questions, la manière dont je me sentais moi émotionnellement. Je pleurais beaucoup, j'avais plus d'estime de moi, il me faisait peur. Donc je savais que j'étais vraiment sous son emprise et puis il était d'une possessivité tellement extrême que je savais que c'était pas normal. En revanche, quand la violence physique a commencé vraiment à devenir de plus en plus fréquente et de pire en pire, là, je me regardais dans le miroir, je pouvais me dire, oui, je suis une femme battue.
Donc finalement, dès le début, cet homme, il a une emprise sur vous et vous le sentez. À quel moment vous décidez de partir ?
Il faut savoir que moi, j'ai essayé de partir plus de 20 fois. Parmi ces vingtaines de fois où j'ai essayé de partir, c'était Juste, j'essayais moi-même de me montrer que je pouvais avoir le courage de le quitter. Donc, je faisais mes valises et je revenais quelques heures après ou le lendemain. J'ai essayé réellement de le quitter deux fois. La première fois, j'ai pas eu le courage de continuer à affronter cette douleur où je pensais que je ne pouvais pas vivre sans lui. Et puis aussi le fait que son harcèlement était tel que en fait j'en étais fatiguée et je voulais qu'une seule chose, c'était qu'on arrête de harceler. Donc je suis retournée avec lui. La deuxième fois, c'était quand j'avais atteint un point de non-retour où les gens autour de moi commençaient à se douter et qu'on m'a fait bien comprendre que mon état psychologique avait atteint un summum extrême, que j'étais en danger. Et surtout, moi, j'ai compris que ma vie peut y passer du jour au lendemain. Et je voyais que tout le monde autour de moi s'inquiétait énormément. Et je me sentais humiliée de faire subir en même temps ça à mon entourage. Et j'avais peur pour moi.
Et qu'est-ce qui vous a aidé, justement ?
Alors, il y a deux choses qui m'ont aidée. La première chose qui m'a aidée, c'est quand je suis allée voir un médecin et que je lui ai dit que j'étais en train de rompre et que c'était très très dur pour moi. Je ne lui avais pas dit la raison, je ne lui avais pas dit que j'avais subi toute sorte de violence. Il a compris ma détresse et il m'a proposé de prendre des antidépresseurs à très faible dose. Et je n'étais pas encore en phase de le quitter, mais le fait de prendre ces médicaments, ça m'a permis de séparer la raison et les émotions. Donc, lorsque je n'arrivais plus, les émotions étaient tellement fortes, parce qu'une fois que je n'arrivais plus à raisonner, quand j'ai commencé à prendre ces médicaments-là, raisonner me paraissait beaucoup plus simple. Donc ça, c'était un des éléments. Et bien sûr, le deuxième élément le plus fondamental, c'est ma famille. Ma famille qui ne m'a jamais lâchée, même si elle aimait pas. Elle ne voulait pas que je reste avec lui. Elle me conseillait de le quitter. Alors, ils avaient un doute, hein, mais ils n'avaient pas de preuves et ils n'arrivaient pas à forcer parce que je ne parlais pas. Mais ils ne m'ont pas lâché jusqu'au bout. Ils ont fait en sorte de rester en contact avec moi, de me poser des questions sur ma vie, faire comme si de rien n'était, de lui l'inviter à la maison. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont dû se dire que même si je suis en danger, le fait de couper le lien, si jamais je souhaite le quitter, il faut que j'ai un lieu de refuge, il faut que j'ai une personne qui soit là pour me sauver. Et effectivement, le jour où je suis partie, j'ai appelé ma sœur et je lui ai demandé si elle voulait changer mon destin. Et si elle voulait changer mon destin, il fallait qu'elle soit là dans les 10 minutes. Et à aucun moment il faut juger, à aucun moment il faut obliger la personne à parler. Et il faut lui montrer qu'on est là quoi qu'il arrive.
Est-ce que vous estimez que vous en êtes sortie ou est-ce que malgré tout, il reste des phases de culpabilité ? Est-ce que vous pensez que c'est votre faute ou finalement vous avez un autre regard par rapport à tout ça qui est c'était le bourreau, j'étais la victime ou nous étions finalement tous les deux partenaires dans cet engrenage infernal ?
Au niveau de la culpabilité, je ressentais la culpabilité uniquement sur le moment. Lorsque je lui disais que quand il me voyait pleurer à la suite de ses actes, lui me faisait comprendre que lui, dans sa manière de me parler, dans sa manière de me violenter, lui aussi, il pleurait. Et qu'on n'était pas forcément obligé de pleurer avec des larmes, on pouvait pleurer d'une autre manière. Et il arrivait toujours, oui, effectivement, à trouver des arguments comme quoi c'était moi la fautive, qu'il ne s'était jamais comporté comme ça avec une autre femme avant, que c'était moi, mon caractère qui le mettait hors de moi. Alors, sur le coup, quand il me disait ça, oui, je culpabilisais, mais la culpabilité, elle s'arrêtait très rapidement. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux femmes qui connaissent votre situation ?
De faire suivre psychologiquement, alors que ce soit une psychanalyse, une psychothérapie, peu importe la manière, mais il faut que ce soit quelqu'un vraiment de médical qui soit là et qui vous suive. Si vous avez besoin de deux fois par semaine, de le voir de trois fois par semaine. Moi, au début, j'avais besoin de le voir deux fois par semaine, puis ensuite de moins en moins. Mais ça, c'est fondamental pour ne pas retrouver un homme qui vous fait subir encore ça, retrouver de la dignité et bien sûr pouvoir reconstruire un autre couple plus tard de manière plus saine.
Déborah, vous avez 30 ans. Merci beaucoup pour votre courage. Et bien sûr, on vous souhaite une bonne continuation. La vie est encore longue devant vous. Merci encore d'avoir témoigné aujourd'hui sur Radio J.
Merci à vous. Merci de m'avoir écouté.
Radio J. 15h-16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
Voilà, mesdames, on vient d'entendre le témoignage très fort de Déborah, victime de violences conjugales pendant 4 ans. Elle était fiancée. Alors d'abord, une réaction de vous, Christelle Albaré, psychosociologue et présidente de la clinique e-santé.
Alors, il y a des choses très précieuses qui ont été abordées par Déborah. Et déjà, au démarrage, je veux dire qu'il y a une différence à faire, très importante, entre une relation toxique et une personne toxique. Parce que là, dans la situation de Déborah, on est beaucoup plus en lien avec véritablement une personne toxique, de type pervers même. Une relation toxique, on peut tous en vivre un jour, une dans notre vie, dans une vie de couple, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ensemble. On va traverser parfois des périodes difficiles. Et on peut avoir des périodes où la relation est toxique. Parce que, par exemple, je suis jaloux, ou alors il y a eu des difficultés professionnelles, on se perd de vue, et la relation, il y a eu un déménagement, les enfants sont partis, il y a eu un deuil, et la relation pendant une période donnée de notre vie devient toxique. Mais ce ne sont pas les personnes qui sont toxiques, d'accord ? Alors qu'il y a une différence avec une personne toxique qui, ça ne vient pas du tout de la relation, mais la personne elle-même est perverse, n'a aucun affect vis-à-vis de l'autre, ne reconnaît pas la réalité d'une identité. Là, dans le cas, par exemple, de Déborah, qu'est-ce qu'on se rend compte ? Il y a une humiliation. Alors, c'est pour ça que je mets le mot de pervers. Souvent, on parle rapidement de pervers narcissique.
On a du mal à faire la différence.
Voilà. Ouais. Une personne de type pervers narcissique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, véritablement, est dans une perversité et complètement tout est relié à lui. L'autre n'existe pas. L'autre est l'objet de son désir, de son plaisir, n'existe que pour être détruite. Et l'autre est une proie. Et là, dans le cas de Déborah, c'est exactement ce qu'on a. Elle dit, je suis sous emprise et même s'il me faisait mal, il y avait quelque chose qui faisait que j'étais attachée à lui, ancrée. Et pourquoi ? Parce que petit à petit, ça se fait toujours de façon, au démarrage, toujours jamais très clair. Donc je pense toujours que c'est ma faute. Peut-être que j'ai mal compris, j'ai mal parlé, j'ai pas eu le bon comportement. Donc on doute avant tout de soi, puisqu'on pense qu'on est dans une relation amoureuse. Sauf qu'en fait, vous êtes amoureux pour deux. C'est pas autre chose. Et la jalousie. Alors moi j'aime beaucoup le mot jalousie maladive. Alors jalousie maladive, on est dans un trouble de la personnalité d'une personne qui va s'attacher à l'autre. Mais la jalousie, on va être très clair, même quitte à me faire des ennemis aujourd'hui, la jalousie, non, elle n'est pas et elle n'a pas existé dans un couple. Dire c'est normal d'être jaloux, non, parce qu'un couple uni, un couple qui est bien, on a le droit d'être libre dans la relation et c'est ce qui fait que cet amour est porté. On peut être dans une forme d'attachement, on a un attachement libre. Être jaloux, je suis désolée, mais c'est vouloir posséder l'autre. Et c'est surtout demander à l'autre de nous rassurer sur quelque chose où nous-mêmes, on n'est pas complètement raccord avec nous-mêmes. Donc, faites un bon travail de développement personnel, ça vous fera du bien. D'accord ? Ça, c'est dit. Ensuite, j'ai envie de dire à Déborah, c'est absolument pas de votre faute. Et pour toutes les personnes qui se reconnaîtraient en Déborah, ce n'est pas de votre faute. Ça aussi, c'est important à prendre en compte. Et j'ai adoré le premier mot qu'a dit Déborah. Elle a dit pardon. Oui. Elle se donne pardon à soi. Elle a fait le chemin, elle a dit qu'elle avait fait une thérapie qui lui a permis de faire ce chemin. Concrètement, les personnes qui sont en lien avec des violences conjugales, ce sont des personnes qui vivent un état de stress post-traumatique. On ne le dit pas suffisamment assez. Il y a un véritable traumatisme. Et un traumatisme, ce n'est pas uniquement s'il y a des violences physiques, violences psychologiques, on n'en parle jamais assez. Humilier quelqu'un en public, ou même quand on fait un grand sourire et quand tout le monde est parti de la soirée, vous allez passer une nuit d'enfer, vous n'en pourrez plus après. On n'en parle pas suffisamment. Il y a deux types de victimes. Il y a les victimes qui n'ont plus la force de pouvoir résister de toute manière vers les violences conjugales. Elles vont abandonner. Ou il y a les personnes qui ont encore cet instinct de survie et qui vont pouvoir avancer. Et ce qu'il faut retenir, et je vous donne la parole parce que je pourrais dire beaucoup de choses,
mais il y a
une notion d'isolement à prendre en compte lorsque l'on est dans des violences de ce type. Alors, toutes les violences conjugales ne sont pas comme le cas de Déborah, mais dans le cas de Déborah, tout est fait pour isoler la victime, et pour qu'elle ne puisse de toute manière ne plus avoir de point d'accroche. D'où l'importance, et j'entendais tout à l'heure quand on disait que dans la communauté juive, il y a une préparation au mariage. Et bien, ces préparatrices-là, qui sont des personnes neutres, parce que c'est ça qui est souvent le plus facile pour ces femmes, et bien, peuvent être un lien. Un jour, il y a eu cette personne, c'est à elle que je vais parler. Parce que bien souvent, on ne parle pas aux personnes qui sont plus proches de nous parce qu'on veut les protéger, puis parce que parfois, on a honte. Voilà.
Justement, dans cette phase de l'après, entre guillemets, quand le mal est fait, j'ai envie de dire, j'ai envie de faire réagir Martine Matatia, parce que vous êtes la présidente de Noah Osez le Dire, et forcément, ces femmes, vous les rencontrez au quotidien, ces femmes qui sont dans ces situations où elles sont dans la honte, dans la tristesse et quelque part dans la demande d'une aide. Alors, qu'est-ce que vous mettez, vous, en place avec cette association Noah Osez le Dire?
Alors, je me permets de rajouter aussi la peur. Oui, ce sont des femmes qui ont peur. Et c'est vrai que ça joue énormément dans le quotidien pour elles comme pour leurs enfants. Parce que leurs enfants, ils sont tout à fait capables de voir que quand la clé tourne dans la serrure parce que monsieur rentre, bah, l'ambiance, elle est tout à fait différente. Et ça, c'est quelque chose qui les imprègne très tôt. Très, très, très tôt. Même au plus jeune âge, un enfant très, très jeune, il sent que l'ambiance a radicalement changé dès que le père rentre.
Nous écouterons un témoignage, voilà. D'ailleurs.
Alors, ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, Noah a été créé en 2007 grâce à la Viso et à la coopération féminine, et que ça fait maintenant 14 ans que les bénévoles de Noah assurent une écoute gratuite qui peut être anonyme si la plante souhaite rester anonyme. Et surtout sans jugement, c'est-à-dire que il n'y a pas lieu d'avoir honte ou d'avoir peur, c'est-à-dire qu'on est là pour écouter tout ce qu'elles ont besoin de dire. Et en l'occurrence, moi, ça fait 11 ans que je suis écoutante, et ben franchement, c'est pas facile d'être, pour la première fois amenée à parler de ce qu'on subit parfois depuis des années. Parce que c'est un mélange qui est pas forcément, c'est un mélange d'informations qui n'est pas forcément chronologique. C'est un mélange d'informations où il y a des réminiscences de moments très durs, mélangés avec, presque dans la même phrase ou à une phrase près, avec ce qui se passe en ce moment. Et du coup, c'est vrai que le travail d'écoute, il est pas évident parce que nous, on essaye de, au fur et à mesure que la personne parle, de saisir le fil un petit peu de l'histoire de la personne. Et même si ça n'est pas forcément explicite, d'essayer, en étant à l'écoute, de comprendre... en dehors de l'écoute elle-même qui est bienveillante et sans a priori de notre part, est-ce que elle veut juste parler ou est-ce qu'elle a besoin d'autre chose? Parce que je crois vraiment, au fur et à mesure des années, que certaines femmes, quand c'est la première fois qu'elles appellent ou qu'elles parlent à quelqu'un de bienveillant à leur écoute, bah parfois, le fait d'être la première fois où elles parlent de ce qui leur arrive, ça peut être quelque chose de très bouleversant pour elles. Parce que c'est une histoire qu'elles n'ont fait qu'intérioriser pendant des années. Et le fait de pouvoir la raconter, même en désordre, parce que c'est assez souvent en désordre, bah déjà, même si elles ne vont pas plus loin qu'avoir eu cet échange et de dire merci de m'avoir écouté, bah je pense que ça change beaucoup de choses, ce premier pas d'avoir exprimé tout ce qui leur arrive, sans avoir la crainte ou la peur de ce que l'autre qui l'écoute pourrait avoir, parce qu'il n'y en a pas, en fait, on le dit dès le départ.
On dit toujours que nommer les choses, c'est les rendre vraies. Donc, c'est les rendre réelles.
Absolument, je suis entièrement d'accord. Ça leur donne une dimension qu'elles n'avaient pas avant l'appel. Alors, la grande mission de Noah, c'est justement cette écoute parce qu'elle permet à la personne, comme elle ne nous connaît pas, on n'est pas de sa famille, on ne la connaît pas physiquement. Si elle reste anonyme, ben, on ne saura pas qui c'est. Et ça, pour elle, ça lève un certain nombre de verrous. Et c'est en ça que je trouve ça une porte d'entrée formidable pour après écoute et après essayer de comprendre quelle est l'attente de la personne. Parce qu'évidemment, les écoutantes, elles ne sont pas là pour proposer quelque chose qui ne correspond pas à l'attente de la plante. On ne va pas leur proposer un avocat quand elles ne cherchent pas un avocat. Enfin, je donne un exemple exprès, un petit peu exagéré. Mais voilà, le but, c'est de comprendre...
De répondre à la demande.
Voilà. Est-ce qu'elle a une attente ou est-ce que... Il arrive que les écoutantes, ce qu'elles entendent, c'est « je ne sais pas quoi faire ». Je ne sais pas quoi faire. On n'est pas là pour penser à leur place. On n'est pas là pour leur dire ce qu'elles ont à faire. On est là pour que leur cheminement par rapport à où elles en sont ici et maintenant au moment de l'appel, les fait réfléchir, mais pas réfléchir intellectuellement, mentalement. C'est ben, quand même tout ça, ça sort de moi, quoi. Tout ce que je viens de raconter, ça sort de moi. Et au moment où j'en parle avec cette personne que je ne connais pas, ben, je suis en train de dire que je me rends compte que mes enfants en souffrent. Que moi, ça fait des années que j'en peux plus, mais que je n'ai pas réussi à en parler autour de moi. Voilà. Alors, toutes ces choses-là, ça a de la valeur, ça a de l'importance. Et le rôle de Noa, c'est justement d'être cette première étape et ce premier pas avant orientation vers des travailleurs sociaux de la communauté.